Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
Un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là en ce mardi soir. Ravi de vous retrouver pour vos deux heures de tech quotidienne. Bienvenue dans Tech & Co sur BFM Business. Que vous soyez à la radio ou à la télé, vous êtes ici chez nous et vous faites bien avec au sommaire ce soir dans Tech & Co. Invité exceptionnel puisque je recevrai le patron de Dell France, Stéphane Huette, sera dans nos studios. On évoquera toute l'actualité de l'IT et notamment du cloud, mais aussi de cybersécurité, puis des nouveautés Dell à attendre dans les semaines et les mois qui viennent. On parlera aussi d'appli MedTech avec WeFight. Je recevrai le fondateur de cette appli, de cette start-up tout à l'heure. Et puis Microsoft qui lance son école sur la cybersécurité. Vous savez qu'on est en manque de bras dans ce domaine. Eh bien voilà, Microsoft est en train de préparer l'avenir, comme beaucoup d'ailleurs d'entreprises liées à l'IT. Voilà quelques-uns de nos invités ce soir dans Tech & Co. Merci d'être avec nous. C'est parti pour donc deux heures de tech jusqu'à 22h.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actu tech de ce jour, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous.
Avant d'accueillir Julien Bonnet dans un instant, notre spécialiste auto, mais je ne vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Dans l'actu, Frédéric, ce soir, pas que des choses gaies.
Hein. Non, voilà. L'actu un peu plombante en mois de décembre.
Voilà. Bon, mais on garde, on garde le feu d'artifice Julien Bonnet juste à la fin. On va commencer donc par Facebook qui, après avoir licencié des milliers d'employés, rechigne à sortir le porte-monnaie visiblement.
Exactement, oui. Donc on rappelle, Facebook a licencié 11 000 personnes. Les conditions étaient plutôt favorables du licenciement, pour en tout cas pour le droit du travail américain, on rappelle. C'était 8 semaines de salaire minimum, 16 semaines de salaire minimum, plus 2 semaines additionnelles par année d'ancienneté, 6 mois de couverture maladie. On sait qu'aux États-Unis, la sécurité sociale, c'est très important.
Très important.
Pour les entreprises qui le fournissent, 6 mois. Sauf que, les 11 000 salariés ne seraient pas tous concernés. Il y en aurait une petite minorité, 60, qui se plaignent et qui auraient reçu deux fois moins. Au lieu 16 semaines de salaire, ils n'auraient reçu que 8 semaines. Au lieu des 6 mois de couverture maladie, ce serait 3 mois. Et alors, ce qui choque, c'est que les salariés concernés, cette soixantaine de salariés concernés, c'est une information du site de CNBC, ce sont des salariés qui sont issus du programme Meta Sourceur Development Programme. C'est-à-dire, c'est un programme qui est destiné à faire entrer des profils atypiques de ceux qui n'ont pas fait les grandes universités américaines pour entrer dans la tech. Donc, ce sont ces profils atypiques qui sont rentrés, comme ça, au sein de Meta, il y a quelques mois, qui se retrouveraient à la sortie avec des conditions deux fois moins favorables que des salariés classiques. Alors, ce qui peut choquer aussi, c'est qu'on ne leur avait pas promis ça. C'est en tout cas ce que disent ces salariés interrogés par CNBC. Leur manager leur a dit non, vous avez droit aux mêmes conditions que les autres. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Il faut savoir qu'en plus, un certain nombre de ces salariés avaient été finis par être embauchés. C'est-à-dire qu'ils étaient sortis de ce programme d'intégration pour rentrer comme des salariés de court terme. Et malgré tout, ils ont eu des conditions bien moins favorables. Alors, ils ont contacté évidemment la DRH du groupe, qui n'a pas donné suite pour le moment. Ils restent relativement confiants, mais c'est vrai que Facebook, là-dessus, en termes d'image et de communication, c'est pas terrible ce qu'ils font. S'ils font rentrer des salariés avec des voies parallèles, ce qui est tout à fait honorable, si derrière, lors des licenciements, ils ne sont pas considérés comme des salariés comme les autres, là, c'est pas terrible pour Meta en termes d'image.
Voilà. Bon, et en plus, c'est étonnant parce que c'est 60 salariés sur 11 000.
60 salariés sur 11 000, oui, ça fait pas beaucoup d'économies.
C'est bizarre.
Par rapport aux 10 000,
mais oui,
10 900 et quelques qui, eux, auront droit aux conditions beaucoup plus favorables.
Voilà. Pousse vers le bas.
Pousse vers le bas, exactement.
Enfin, cela dit, alors transition malheureuse, on va rester avec un pouce vers le bas.
On va rester avec YouTube.
Puisque, vous le savez, Norman Tavo, qui a été l'une des premières stars de YouTube en France.
Oui.
Il y avait Cyprien et Norman qui ont fait les beaux jours de YouTube il y a une petite dizaine d'années de cela.
Et qui était toujours, qui postait toujours.
Bien sûr, bien sûr. 12 millions d'abonnés sur YouTube. Enfin, l'une des stars de YouTube qui est accusée de viol. Alors, vous avez sans doute suivi l'actualité. C'est une histoire peu reluisante pour Norman. Et les conséquences pour Norman vont même dans son business, on va dire,
oui,
aujourd'hui.
Oui, voilà. Alors aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose, évidemment. Donc, le youtubeur Norman Tavo est toujours en garde à vue. La garde à vue a été prolongée, on le rappelle. Il est poursuivi. Il y a 6 plaintes de viol il y a 6 plaintes, dont 5 plaintes de viol, dont 2 qui seraient des viols sur mineurs. Donc voilà, les charges qui pèsent...
c'est assez lourd. Hein.
Les charges qui pèsent contre lui sont assez lourdes. Lui, évidemment, dément toutes ces accusations. En tout cas, là, on va s'intéresser davantage au volet business. Aujourd'hui, Tech & Co, le site, a pu avoir des informations auprès de YouTube. Eh bien, YouTube pourrait... condamner Norman et réduire un petit peu sa visibilité. Alors, on parle de Norman, mais on parle aussi de Léo Grasset, le youtubeur bien connu des vulgarisateurs, des amateurs de science, qui lui aussi est poursuivi dans 2 affaires. Deux enquêtes préliminaires sont ouvertes contre lui depuis 2022. Donc, Tech & Co a contacté YouTube pour savoir s'il allait avoir des suites, si YouTube, même avant une décision de justice, pouvait sanctionner ces deux YouTuber stars. Eh bien, oui, apparemment, YouTube a confirmé pour des comportements même en dehors de la plateforme. Donc, YouTube conseille aux victimes, évidemment, de porter plainte. Mais si la plateforme constate des comportements inadaptés, des comportements de violence qui peuvent nuire à autrui ou des comportements de participation à des actes abusifs, violents ou cruels, la plateforme peut sanctionner avant même une décision de justice, avant même de savoir si les youtubeurs en question sont vraiment condamnés pour ces faits-là. Alors, les sanctions de YouTube sont, évidemment, passer les comptes en non monétisé, c'est-à-dire que les youtubeurs ne gagneront plus d'argent en postant leurs vidéos, mais aussi réduire fortement la visibilité des youtubeurs qui sont actuellement poursuivis et qui nuisent évidemment à l'image de YouTube et à la communauté des youtubeurs. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs avec un youtubeur, un Marvel Fitness, qui avait été condamné en appel pour harcèlement, qui a vu son compte fortement restreint par la plateforme. On rappelle déjà que Webedia, qui est la plateforme qui recense un certain nombre de youtubeurs et d'influenceurs, a déjà précisé qu'il ne travaillerait plus avec le vidéaste Norman Tavo, qui est actuellement en garde à vue au moment où on se parle.
Voilà, sombre histoire quand même. Dans l'actualité,
on rappelle qu'ils sont pour le moment présumés innocents.
Bien sûr, bien sûr,
évidemment.
Évidemment. Dans l'actualité aussi, on va revenir sur Neuralink. Vous savez, c'est ce projet scientifique incroyable d'Elon Musk qui souhaite implanter à terme des puces, on va dire, dans le cerveau pour permettre à des personnes de remarcher, en tout cas de regagner en autonomie. Ça, c'est la première étape. Après, il y a d'autres étapes encore plus bluffantes de la part de Neuralink. La seule ombre au tableau, c'est que Neuralink aura fait des dégâts, puisque avant que, évidemment, tout cela soit testé sur des humains, ça a été testé sur des animaux, on en a parlé, des truies, mais aussi des singes. Il y aurait eu beaucoup, de victimes du côté de ces animaux.
Exactement, oui. Neuralink, on rappelle, donc l'idée, c'est d'implanter des puces dans le cerveau pour que le cerveau puisse communiquer éventuellement avec les autres membres ou des membres artificiels, et dans un second temps, de faire communiquer l'esprit avec les écrans, avec la technologie.
On l'avait vu avec cette vidéo de ce singe qui jouait à Pong, en fait, simplement par la pensée.
Simplement par la pensée, exactement.
On s'en souvient.
Donc ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'il
faut... C'est formidable, je veux dire.
L'idée est absolument géniale. Donc, on rappelle, c'est un projet d'Elon Musk. Elon Musk est derrière cette entreprise-là et finance, évidemment, Neuralink. Sauf que pour y parvenir, il faut d'abord faire énormément de tests cliniques. C'est ce que fait Neuralink depuis 2018. Tu l'as dit, avec des animaux, des moutons, des singes, des cochons, des rats et des souris. Sauf qu'une enquête fédérale a été ouverte aux États-Unis sur Neuralink. Alors, on ne sait pas si elle porte sur ces expérimentations-là. C'est Reuters qui révèle l'affaire. On ne sait pas si elle porte sur ces expérimentations sur les animaux. Mais en tout cas, dans les informations qu'ont pu obtenir les enquêteurs fédéraux, c'est qu'il y aurait eu 1500 animaux morts depuis 2018, depuis le début de ces expérimentations. Voilà, 1500 animaux morts. Évidemment, ça fait tâche pour cette entreprise-là qui veut à terme faire des tests sur les humains.
Alors, Elon Musk a dit qu'il voulait tester aussi.
J'espère
qu'il est au courant de ces statistiques.
On va y revenir. Il voulait même dès 2023. Oui. C'est dans les 6 mois qu'il voudrait faire des tests sur les humains. En attendant, aujourd'hui, ce que révèle l'enquête de CNBC, c'est que c'est Elon Musk lui-même qui est pointé du doigt par les salariés, les cadres, les managers qui ont été interrogés par les enquêteurs aux États-Unis. Il mettrait une pression d'enfer, apparemment.
Comme sur tous ses projets, d'ailleurs.
Comme il le fait sur tous ses projets. Tesla et SpaceX.
Et Twitter récemment.
On n'est pas sur des êtres vivants qui sont en jeu. Là, en l'occurrence, on est sur des êtres vivants. Alors, l'enquête révèle des mails postés, envoyés par Elon Musk à ses cadres dirigeants pour leur mettre la pression, notamment un mail envoyé en février 2022 à 6h du matin au réveil qui leur dit que ça n'avance pas assez vite. vite, que ça le rend fou, qu'il faut aller vraiment beaucoup plus vite. Sinon, il menace l'entreprise, eh bien, de fermer l'entreprise, ou en tout cas de la faire chuter sur les marchés si les résultats ne vont pas assez vite, si les résultats sont trop lents. Voilà. Alors, Elon Musk, tu l'as dit, veut expérimenter ses premières puces sur les humains. Ça, c'est pour... Il avait promis, il a fait une conférence en novembre, il avait promis pendant 6 mois, donc en 2023. En attendant, les autorités fédérales, on ne sait pas si elles peuvent interdire, au regard de ces informations-là, de ces 1500 animaux sacrifiés par cette recherche de Neuralink d'Elon Musk.
Voilà, encore un dossier sur la pile des dossiers d'Elon Musk,
encore,
qui commence, voilà, qui commence à mon avis, être imposant sur son bureau. Hein. Je pense qu'il ne doit même plus voir les personnes qui sont en face de lui, tellement il y a des dossiers. Fred, tu restes avec nous. Oui. Sujet qui va t'intéresser avec Julien Bonnet, maintenant, qui nous a rejoint. Salut Julien.
Bonsoir.
Journaliste donc à la rédaction de BFM Business et pour Tech & Co ce soir. Julien Bonnet qui teste, vous le savez, énormément de véhicules et tu vas nous parler là d'un projet formidable. C'est un véhicule qui en fait fonctionne en partie à l'énergie solaire.
Oui, ça c'est l'entreprise Lightyear en fait, qui est une start-up néerlandaise qui avait été fondée en 2016. La petite histoire, elle est intéressante à raconter, c'est que c'est un étudiant en fait de l'université d'Eindhoven qui avait fait un concours, une compétition en fait entre étudiants en Australie, la World Solar Competition. Donc l'Australie, une terre qui est quand même bien vue pour ce genre de compétition, et il l'avait remporté en 2012. Et donc 10 ans plus tard, il commence la production de sa première voiture de série. Donc moi j'avais pu découvrir le prototype lors de sa présentation en juin 2019. Il promettait une production l'année suivante. Bon, l'année suivante il y a eu le Covid,
oui,
ça a un petit peu retardé les plans, et puis on savait déjà qu'en termes de réalisme, on va dire industriel, c'était compliqué. Donc on allait découvrir voilà l'usine qui produit ce véhicule en Finlande.
Alors explique-nous quelle est la particularité de ce véhicule en fait.
Ouais,
elle a des panneaux solaires,
c'est ça,
qui rechargent la batterie qui est à l'intérieur.
Exactement. En fait leur idée c'est vraiment de trouver le véhicule électrique, ils disent donc sustainable, donc on pourrait dire cohérent avec le développement durable, voilà, donc très efficient, beaucoup d'aérodynamisme. Moi ce qui m'avait marqué lors de la présentation du prototype, c'est que finalement c'est un peu un anti Tesla dans un certain sens, c'est-à-dire que eux pour l'autonomie, ils vont pas mettre une grosse batterie, ils vont plutôt chercher au maximum à réduire le poids et justement pas mettre une trop grosse batterie, à la fois pour limiter le coût, même si le premier modèle il est très cher, hein, il a 250 000 euros, mais c'est faut le voir un peu comme un démonstrateur,
oui,
technologique.
Sûr.
Donc les clients c'est aussi des pionniers de ce côté-là. Et donc, ce poids léger, cette batterie limitée, la recharge via l'énergie solaire, donc ils ont recouvert quand même intégralement le véhicule. C'est ça un peu la prouesse technique de panneaux solaires, donc vraiment du capot jusqu'au coffre, hein, en passant bien sûr par le toit. Ce qui est vraiment différent par rapport, par exemple, à la Fisker Ocean qui va sortir là, mais qui a un panneau solaire sur le toit qui doit certes, comme la Lightyear Zero, alimenter la batterie, donc entraîner les roues. Jusqu'ici, on avait plutôt des panneaux solaires sur les voitures qui servaient, on va dire, à des fonctions un peu annexes,
oui,
par exemple la climatisation.
Voilà, c'est ça.
Donc là, c'est vrai que c'est eux, ils vendent dans un pays à fort ensoleillement 70 km d'autonomie par jour.
Pas mal quand même.
Donc c'est
70 km par jour.
Peu de gens roulent, oui, plus de 50 km par jour.
Finalement, on pourrait imaginer là que le soleil en fait permet de faire l'aller-retour travail boulot maison,
c'est ça,
sans avoir à recharger la voiture
en fait. Sachant que c'est dans un pays à fort ensoleillement, donc on peut imaginer que dans un pays,
oui,
comme la France, on le voit en ce moment.
En ce moment, on ferait pas beaucoup de kilomètres,
c'est
je pense,
pas terrible, mais même la France c'est varié, par exemple dans le sud de la France, il disait qu'a priori on avait le niveau d'ensoleillement nécessaire pour profiter vraiment de cette fonction.
Alors 250 000 euros aujourd'hui. La voiture sort quand? Elle va être industrialisée quand?
Bah là,
on a une idée de son prix final?
C'est en cours. Bah c'est là pour l'instant, la Lightyear Zero, le premier modèle, donc la grande berline 5 mètres, vous êtes le premier à posséder la première voiture électrique solaire. 250 000 euros, pour l'instant, il n'y a pas de baisse de prix envisagée.
Ouais.
La production vient de commencer, donc ils tapent sur une par semaine, donc on est vraiment plutôt dans un rythme, on va dire, d'atelier. D'ailleurs,
c'est plus le rythme Ferrari que Tesla, hein, pour l'instant. Hein.
Pour ceux qui nous suivent à la télé, on va sûrement voir les images, mais c'est vraiment une usine, on va dire, je trouve, niveau plus par rapport à Tesla et même toutes les usines modernes. Donc tout est blanc, il y a des grands posters affichant un peu les objectifs de sauver le monde un peu partout. Il y a même des plantes vertes, ce qui est assez inhabituel dans une usine. Donc on est vraiment plongé dans cette ambiance. Et l'objectif à terme, en fait, c'est de gagner justement avec cet effet de masse, en connaissance aussi avec les utilisateurs qui vont rouler avec, pour arriver à une Lightyear 2. qu'on attend beaucoup, qui sera un peu la modèle 3 de Lightyear, puisque là, il s'engage à fixer un prix à 30 000 euros. Il vise quand même une voiture familiale, donc pas une petite citadine qui sera recouverte de panneaux solaires. Mmh. A priori, un véhicule complet. Ils envisagent 2025. Bien sûr, c'est un peu tôt pour voir, mais on suit bien le projet. Et surtout, j'ai hâte de tester la Lightyear 0, parce que pour l'instant, donc, j'ai vu son début de prod, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la tester.
Tu viendras nous la présenter quand tu la testeras.
Et ils promettent vraiment une consommation record, d'accord, notamment sur autoroute, ce qui permet d'envisager, même avec la batterie réduite en 60 kWh, de faire quand même 400-500 km d'une traite, donc à voir ce que ça donnera.
Pas mal. Merci beaucoup, Julien Bonnet, donc, pour cette voiture étonnante, le futur de l'automobile, sans doute. Vous restez avec nous, Tech & Co revient dans un instant, à tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique, avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business et je suis très heureux d'accueillir Stéphane Huette ce soir sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir François.
Directeur général de Dell Technologies en France. Dell, voilà, société qu'on ne présente plus, hein, numéro un de l'IT, hein, Stéphane, dans le monde. Je crois troisième constructeur de PC au monde aussi, voilà. Fondé par Michael Dell il y a quelques années de cela déjà. Alors l'actualité de Dell, elle est très intéressante parce que forcément après le Covid, il y a eu toute cette transformation, déjà explosion des ventes, hein, et puis là voilà, le marché qui redescend, on va peut-être évoquer tout ça. Il y a le Dell Technology Forum aussi qui se déroulera chez nous le 8 décembre prochain. Peut-être pour commencer, voilà, comment réatterrit Dell après cette période, on va dire, incroyable, où voilà, le PC était le produit star technologique, à la fois en entreprise, mais aussi à la maison. Est-ce que l'atterrissage de tout cela, puisqu'on revient à des tendances un peu plus normales, se fait dans de bonnes conditions, Stéphane ?
Oui, absolument. On vient d'ailleurs de publier les résultats de notre troisième trimestre, après une année record l'année dernière, tu l'évoquais, plus de 100 milliards de dollars, 17% de croissance l'année dernière. Et là, sur les trois premiers trimestres, 77 milliards de dollars déjà, encore 6% de croissance, et avec un troisième trimestre qui traduit ce que tu évoquais, c'est-à-dire une partie post-client qui est en baisse, dans un marché en baisse, hein, moins 17%, et une partie data center, solution pour le stockage, le backup, les serveurs, en forte croissance, double digit, plus 12%.
La pénurie de semi-conducteurs, c'est toujours une réalité, c'est toujours un obstacle pour des constructeurs d'IT, mais en l'occurrence pour Dell, encore aujourd'hui.
Alors, ça se résout de façon importante, et Dell, dans le cas de Dell, la très grande majorité des produits maintenant sont sur des délais de livraison absolument standards.
Oui, parce qu'on s'était parlé de ce sujet il y a quelques mois de ça, c'était pas tout à fait la même histoire.
Hein. Bonne mémoire, en effet.
Et donc tout ça, voilà, tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui, c'est-à-dire que alors que je sois un particulier ou une entreprise, que je veuille un PC ou des serveurs, je suis livré très rapidement aujourd'hui.
Oui, pour la très grande majorité des produits, on est revenu sur des lead time standards, ce qui n'est pas le cas de tout le monde encore dans l'industrie, mais c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir fournir tous nos clients, et d'ailleurs on a eu une très grande réduction de notre backlog qui a été communiqué d'ailleurs lors de la communication des résultats du troisième trimestre.
L'actualité de la tech est chamboulée, alors il y a énormément de sujets intéressants, il y a le cloud, on va y revenir, mais il y a aussi la cybersécurité, pas plus tard qu'hier. On parlait avec Frédéric Simotel de cette attaque de cet hôpital donc à Versailles qui fait éteindre tous les PC. Enfin bon, on parle toujours la même chose, hein. Ces ransomware qui mettent à genoux en fait des infrastructures. On parle des hôpitaux, mais c'est des TPE, PME. Comment vous commentez tout cela et quel est le rôle de Dell en fait dans cette histoire?
Alors écoute, c'est très intéressant qu'on en parle parce que je pense qu'il y a un vrai sujet de sensibilisation qui a beaucoup progressé. Les cas emblématiques des hôpitaux, l'hôpital de Versailles cette semaine, l'été dernier c'était l'hôpital de Corbeil-Essonnes, l'année dernière Dax. Je pense que chacun a commencé à prendre conscience.
Là, on parle que de la France.
Absolument.
Voilà, il y a eu des histoires incroyables aux États-Unis notamment.
Une attaque toutes les 11 secondes se produit dans le monde. 11 secondes. Donc c'est vraiment partout. Les attaques ransomware sont en croissance de plus de 150%. Juste un chiffre peut-être pour étayer l'ampleur des dégâts potentiels. Une étude de Cybersecurity Venture montre que d'ici 2025, l'impact des cyberattaques sera de plus de 10 000 milliards de dollars. Juste pour mettre ça en perspective, 10 000 milliards de dollars, c'est plus que le PIB de l'Allemagne et du Japon combinés.
Ouais, c'est incroyable.
C'est énorme.
Donc, et puis ça va mettre à mal et mettre à genoux des milliers d'entreprises qui vont peut-être être obligées de mettre la clé sous la porte. Comment vous prenez ce problème et qu'est-ce que vous proposez en fait comme solution?
Alors, au travers de deux prismes, je pense qu'il y a, l'ensemble de l'écosystème, les pouvoirs publics, les entreprises qui doivent sensibiliser, puisque comme tu le disais, il faut sensibiliser l'ensemble des acteurs, tout le monde peut être touché. Et puis, au travers de cette sensibilisation, apporter également des solutions. Des solutions qui sont de deux grandes catégories. La prévention, ce qu'on appelle classiquement donc la cybersécurité, avec le monitoring, avec des solutions software de veille sur l'ensemble des équipements.
Avec le plan du gouvernement aussi de 30 millions d'euros qui a été annoncé il y a quelques jours.
Absolument.
Hein, pour aider les TPE-PME les plus fragiles, on va dire.
Et puis, la cyber-résilience, c'est-à-dire construire des plans et des solutions technologiques pour redémarrer ses activités quand on fait face à une cyberattaque. Et ça, c'est un environnement très particulier. Il faut créer des sanctuaires de données, il faut créer des processus pour gérer cette reprise d'activité qui est essentielle et, comme on le voit, qui peut prendre des jours, des semaines, voire des mois.
Oui, c'est clair. Est-ce que le cloud peut être une solution justement pour contrer la cybersécurité?
Alors, je pense qu'il est, autant exposé que le peuvent être les solutions on-prem. Donc, le cloud est plutôt une des composantes également par laquelle les attaques peuvent avoir lieu. Il est un des problèmes et puis il est aussi une des solutions puisque on peut aujourd'hui offrir des solutions. Je parlais de domaines sanctuarisés. On peut sanctuariser des données qui sont dans le cloud afin de pouvoir redémarrer initialement dans le cloud.
D'accord. Le cloud, justement, quel est le point de vue d'un géant de l'IT comme Dell? Alors, on va peut-être aussi évoquer la souveraineté de ce cloud. C'est un sujet capital. Il n'y a pas un soir dans Tech & Co où on n'évoque pas soit de nouvelles alliances entre des géants américains qui s'allient à des géants français pour créer leurs solutions de cloud. Quelle est la position de Dell sur ce sujet?
Alors, Dell est un acteur qui travaille avec l'ensemble des acteurs cloud, que ce soit des clouds publics internationaux, que ce soit des opérateurs français, avec notamment les normes SecNum Cloud qui opèrent, ou bien avec des solutions également sur site on-prem, comme on dit dans notre jargon. L'environnement, il est multi-cloud. 92% aujourd'hui des sociétés opèrent au minimum avec 5 clouds, dont un cloud privé. Donc, l'agilité, l'automatisation, la sécurisation de ces environnements qui sont multi-cloud et qui vont continuer de rester multi-cloud est essentielle et Dell est en partenaire avec l'ensemble de ces acteurs pour justement permettre d'avoir une couche transparente tant en termes d'opération que de sécurisation.
Le télétravail, un mot aussi sur ce sujet, parce que on se retrouve aujourd'hui avec un télétravail qui devient hybride, en quelque sorte, entre des gens qui restent 48 heures dans les locaux d'une entreprise et puis qui après travaillent de chez eux, ou d'où ils veulent, en quelque sorte. Ça change aussi le comportement d'un Dell au niveau de l'équipement, des machines, des collaborateurs, mais aussi du cloud. Qu'est-ce que ça change, en fait?
Alors, le télétravail qui est en train de se mettre en place post-Covid, post-pandémie, requiert à la fois une transformation encore technologique chez nos clients et les organisations, mais aussi managériale et de culture d'entreprise. Et ce que Dell aujourd'hui apporte sur la base de sa propre expérience, on avait démarré le télétravail, nous, il y a plus de 12 ans en France, et sur la base du partage d'expérience des clients, on apporte un accompagnement non seulement technologique, mais aussi sur les outils collaboratifs, sur l'évolution de la culture managériale pour permettre un environnement plus inclusif et plus productif.
D'accord. Mais aujourd'hui, j'ai un ordi. Je fais partie d'une entreprise qui est gérée en partie par Dell. Quels sont les points que demandent les employés? C'est des meilleurs, de encore plus de puissance, des ordinateurs, on va dire plus efficients pour la visio. On voit que tout ça a changé aussi aujourd'hui.
Alors, il va y avoir différentes solutions. Il va y avoir le matériel lui-même et l'évolution de la technologie, comme tu l'évoquais. Ça va être des réductions de bruit, ça va être des caméras qui vont zoomer automatiquement suivant où je suis dans la pièce ou sur ma chaise. Donc des évolutions technologiques associées, plus de reconnaissance et de personnalisation. Mais aussi, ça va être dans l'accompagnement. aujourd'hui, je peux être avec mon PC bureau à la maison, comment on m'apporte le support technique si mon matériel est défectueux. Donc une évolution de l'accompagnement de l'environnement professionnel qui s'est fait ces trois dernières années de façon importante.
Un mot sur la concurrence. On voit qu'Apple accélère un peu quand même sur le B2B. Est-ce que vous le ressentez chez Dell ?
Alors, les solutions de Dell, si tu veux, et tu évoquais les trois acteurs principaux, sont principalement tournés autour des environnements Windows, d'accord ? Avec... je dirais, toute l'automatisation et la sécurisation des outils qui sont associés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Apple évolue plus dans un environnement et des secteurs très particuliers,
oui,
très
spécifiques. Créatifs, peut-être, etc. Un mot quand même sur ce Dell Technology Forum, qui aura lieu donc le 8 décembre au Carrousel du Louvre. Qu'est-ce que c'est que cet événement, Stéphane ?
C'est ce jeudi. C'est jeudi, un événement annuel que l'on retrouve en présentiel après deux ans de virtuel, avec un grand plaisir. Plus de 2000 participants attendus, inscrits, au Carrousel du Louvre. Une journée entière de forums, d'expositions, d'ateliers avec des experts, où on va parler innovation, comment la technologie aide à l'innovation commerciale. On va parler de cybersécurité, et puis on va parler aussi d'environnement. Le 8 décembre, ce sera la Journée internationale du climat. Et on aura une petite première à partager.
Oui, avec enfin, j'imagine que vous allez parler du fameux projet Luna. Hein.
Ah, les premières, tu les connais déjà avant même qu'on les dévoile.
Non, mais c'est un
on en avait parlé.
Qui est fabriqué à partir de plastique recyclé, je crois, et c'est qui est facilement concept... réparable aussi.
Hein, absolument, c'est un concept modulaire. En effet, le concept Luna, avec non seulement des matériaux recyclés, mais aussi une approche dans la conception du matériel beaucoup plus modulaire, qui permettra plus d'accessibilité, de remplacer, de réutiliser. Certains composants.
Et de rendre plus évolutive sa machine, en fait.
Absolument, absolument. Et ceci avec un impact carbone. Si l'ensemble des procédés que l'on a utilisés pour concevoir ce prototype s'étendent à grande échelle, l'empreinte carbone des produits informatiques serait réduite de plus de 50%.
Ouais, donc ce projet Luna, on le découvrira, j'imagine, lors de ce Dell Technology Forum. C'est le 8 décembre prochain.
On le découvrira et on pourra le toucher et le prendre dans ses mains. Je vous invite à nous rejoindre au Carrousel du Louvre.
Merci beaucoup Stéphane d'être passé par le plateau de Tech & Co.
Merci,
directeur
François.
Général de Dell Technology en France. Et vous restez avec nous bientôt 20h30. On revient juste après les infos de Faïza Younsi. À tout de suite.
Tech & Co. Le grand live du numérique avec François Sorel.
Avec à suivre dans Tech & Co tout à l'heure, Sabrina Kegliosi depuis New York. On s'intéressera au CES de Las Vegas. Dans un mois tout pile, nous y serons. Ce grand salon, le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies, on en parlera avec Mathieu Lefort de chez Business France. Mais dans l'immédiat, je reçois le cofondateur de WeFight. Pierre Nectou est avec nous. Bonsoir Pierre. Vous êtes donc le cofondateur de cette société et de cet environnement logiciel qui en fait combat l'errance thérapeutique, un sujet assez méconnu finalement, parce que c'est vrai que quand on a parfois des maladies chroniques, on manque d'informations, on ne sait pas trop comment réagir par rapport à ces maladies. Vous êtes là pour combler en fait ce vide. Expliquez-nous ce que vous faites chez WeFight et comment ça marche.
Alors, à WeFight, depuis la création, on accompagne les patients atteints de maladies chroniques. On fait en sorte qu'ils aient moins besoin de penser à leur pathologie et qu'ils puissent plus vivre une vie normale. Pour ça, vous l'avez dit, on va informer le patient, on va faire en sorte qu'il ait accès au bon moment à l'information médicale, mais aussi à des témoignages de patients. On va le guider dans son parcours de soins, c'est-à-dire qu'on va lui montrer la prochaine étape pour qu'il se sente moins perdu. Et enfin, on va faciliter le parcours de soins, on va faire en sorte qu'il ait accès, en tout cas qu'il puisse accéder au bon praticien, à la bonne analyse qui va accélérer son parcours de soins.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple ?
Alors, très concrètement, si on prend l'exemple de l'asthme, vous avez beaucoup de personnes qui ont un traitement dans l'asthme, mais qui finalement connaissent de nombreuses crises. Et c'est pas normal. L'asthme bien contrôlé, souvent, on a beaucoup moins de crises. L'objectif...
Oui, donc c'est de prévenir, en fait, les crises.
Exactement. C'est déjà d'expliquer au patient que ce qu'est l'errance thérapeutique, de le sensibiliser par rapport à ça, parce que souvent, c'est bien méconnu, et beaucoup de patients... Pour eux, c'est normal d'avoir des crises et de pouvoir lui expliquer finalement dans le parcours de soins.
C'est la solution de facilité.
Exactement. Et je fais du sport, j'ai une crise, je prends une Ventoline. Mais en fait, potentiellement, il peut avoir un traitement de fond qui va diminuer ses symptômes, faire en sorte qu'il ait une qualité de vie au global qui est améliorée.
et peut-être être moins exposé à des allergènes, des choses comme ça.
Ça peut être des allergènes dans le cadre de l'asthme, sur la dermatite atopique aussi, donc des maladies plus de la peau. On peut avoir des facteurs déclenchants et on va alerter le patient pour l'aider. L'objectif final, c'est toujours le même, c'est de faire en sorte que le patient ait une meilleure qualité de vie.
Mais alors, à qui vous vous adressez? Alors, aux personnes qui vivent avec ces maladies chroniques, mais encore faut-il qu'ils sachent que vous existiez. Comment sont-ils au courant que vous existez? C'est leur médecin traitant qui parle de vous? Voilà, quand vous venez par exemple ici sur le plateau de Tech & Co.
Alors c'est ça, déjà c'est de la communication au grand public. On est accessible gratuitement sur les stores, donc ça passe aussi par là.
D'accord.
Et après on travaille directement avec des associations de patients ou des médecins qui vont déjà nous aider à construire ces solutions. Moi j'ai un profil technique, j'ai besoin de comprendre le besoin du patient, j'ai besoin de comprendre comment je peux l'aider. Et ça passe par une équipe médicale en interne, des médecins hospitaliers avec qui on travaille, des associations de patients avec qui on travaille également. Et après, bah, effectivement, des campagnes de communication. Par exemple, sur le sujet de l'errance thérapeutique, on va mettre en place un escape game sur ce sujet-là. Alors, c'est un peu ludique, mais le but, justement, c'est d'expliquer aux patients ce qu'est l'errance thérapeutique et comment ils peuvent en sortir.
La gamification, c'est important aussi pour essayer d'entraîner dans votre aventure le maximum de gens, un maximum de gens.
C'est très important, puisque, bah, justement, ça permet de donner un cadre un peu plus ludique à ces sujets qui sont parfois compliqués. Et ça nous permet aussi bah, justement d'apporter des solutions aux patients qui soient engagés dans sa pathologie. Et tout ça, on le fait avec le personnel de santé, avec des professionnels de santé, puisqu'on reste dans un milieu quand même très contraint.
Il faut savoir que 23 millions de Français seront atteints d'une maladie chronique en 2023.
En 2023, exactement. C'est 20 millions en 2020.
Incroyable. Évidemment, ça coûte une fortune. Hein. Vous pouvez imaginer, je crois que c'est quasiment 50 milliards d'euros. Voilà, c'est des sommes qui sont dingues. Et vous estimez que d'ici 2024, 80 000 patients pourraient bénéficier en fait de vos services, c'est ça?
C'est ça, c'est l'objectif qu'on se fixe. En fait, il faut savoir que l'errance thérapeutique est presque inhérente à toutes les pathologies chroniques. Donc tous les patients chroniques, les 23 millions de patients en 2023 que vous avez cités, potentiellement connaîtront une phase d'errance thérapeutique. Pour certains, ça va être relativement court. Pour d'autres, ça peut être très long, ça peut durer des années. Et du coup, on se fixe ce premier objectif de 80 000 patients. Forcément, c'est la première étape. Pour nous, on sera satisfait que quand on aura pu aider tous les patients.
Enfin, cela dit, 80 000 sur 23 millions, alors bon...
C'est petit, mais c'est la première étape.
C'est pas mal,
et,
quand même.
Et on essaie d'engager un mouvement là-dessus.
Vous avez levé 10 millions l'année dernière. Qu'est-ce qui va se passer par la suite?
J'imagine. Alors, la suite, pour nous, on n'a pas encore tout brûlé, mais on prépare quand même la suite avec une prochaine levée de fonds en 2023.
D'accord. N'est pas le même.
Le contexte n'est pas le même, effectivement. L'objectif pour nous, c'est de continuer sur cette errance thérapeutique. On a commencé en France, on est déployé maintenant en Europe, on souhaite aller aux États-Unis. On souhaite aussi pouvoir se déployer sur d'autres pathologies. Aujourd'hui, on est sur à peu près 18 pathologies chroniques. Malheureusement, il y en a encore beaucoup à traiter. Donc voilà, c'est des sujets, il y a mille choses à faire. On espère apporter aussi notre pierre à l'édifice et au parcours de soins des patients.
Et quel est votre modèle économique?
Alors aujourd'hui, on a le soutien institutionnel d'entreprises du secteur de la santé. C'est des entreprises qui ont intérêt finalement à aider le patient à faire en sorte qu'il soit plus à l'aise dans son parcours de soins, en tout cas que son parcours de soins se passe mieux.
Et le paradoxe, c'est que vous faites économiser à terme de l'argent à la sécurité sociale.
À la sécurité sociale, à la société, évidemment. Et surtout aux patients, on améliore sa qualité de vie.
Évidemment, ça c'est le plus important. Merci beaucoup Pierre,
merci à vous.
Cofondateur donc de WeFight, qui combat cette errance thérapeutique. Vous êtes à Montpellier, tiens.
Exactement, dans le sud.
Merci d'être venu nous voir. Et vous restez avec nous, Tech & Co, dans un instant. La suite, on va évoquer ce grand rendez-vous du CES de Las Vegas avec mon invité. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Je le disais, dans un mois, nous serons jour pour jour, non pas dans nos studios parisiens, mais au CES de Las Vegas, à l'Eureka Park, pour vous faire vivre le plus grand salon au monde dédié aux nouvelles technologies. C'est le CES, une édition 2023 qui va être sans aucun doute très intéressante pour plein de raisons, parce que ça sera le premier salon post-pandémie. On y était l'année dernière, mais disons qu'avec le variant Omicron, c'était un petit salon. Donc là, en théorie, tous les voyants sont au vert. Ça va être intéressant de voir un peu quelles sont les nouveautés que les géants de l'électronique grand public vont présenter. Est-ce qu'on aura une innovation de rupture pour ce CES? C'est ce dont on rêve, hein, bien évidemment. Et puis aussi, ça va être le retour en force des pépites françaises de la tech. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ce CES, on y va avec Business France, hein, qui sera notre partenaire durant cette petite semaine, donc à Las Vegas. Et j'accueille Mathieu Lefort ce soir. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Directeur expertise sectorielle chez Business France. Et donc rappelons que vous êtes là pour promouvoir les pépites françaises de la tech dans tous les domaines. Combien de startups vont vous accompagner ?
On va accompagner à peu près 200 startups, essentiellement sur l'Eureka Park, mais également dans le domaine automobile, sur le Las Vegas Convention Center, le West Hall.
Oui, c'est ça.
Et là, sur les 200, il y en aura 160 sur l'Eureka Park et 16, donc on est évidemment beaucoup plus modeste, mais 16 pépites spécialisées sur le domaine automobile.
Parce que le CES, c'est vrai que c'est le rendez-vous de l'électronique grand public, mais c'est aussi, et de plus en plus, le salon de l'automobile, en quelque sorte.
Tout à fait. Hein. Depuis quelques années déjà, on voyait les entreprises automobiles arriver sur le CES, mais c'est finalement pas si surprenant, puisqu'il y a très peu de filières qui, autant que l'industrie automobile, est à la convergence des transitions écologiques, énergétiques, et surtout technologiques. Et donc, aller sur un événement qui donne le là des nouvelles tendances, c'est quand même assez naturel pour une filière comme l'automobile, puisque c'est un laboratoire exceptionnel hein, pour tester ces innovations, vérifier ce que fait la concurrence et se challenger un petit peu par rapport aux autres. Et puis évidemment, voir par rapport à des donneurs d'ordre, des grands comptes, des distributeurs, quelle est la réaction de ce marché sur le marché américain, qui est un des marchés phares dans l'automobile.
Voilà, et l'automobile qui aura un pavillon dédié, donc c'est pour vous montrer l'importance quand même aujourd'hui que revêt la tech dans l'automobile. Hein. On dit souvent qu'une voiture aujourd'hui, c'est un smartphone sur roue. Hein.
Complètement.
Et alors, ce qu'il y a de fort aussi, c'est qu'on a une excellence dans ce domaine en France.
Tout à fait. On a la chance d'avoir différents niveaux. On a évidemment des constructeurs automobiles historiques qui ont une importance forte dans la filière et qui ont su depuis de nombreuses années avoir une stratégie internationale. Hein. Renault-Nissan, PSA qui s'est associé avec FCA. On a également des fournisseurs de rang moyen, on peut citer Valeo, Faurecia, Michelin, qui eux aussi ont à la fois eu une stratégie internationale, mais également une stratégie forte d'innovation, on y reviendra certainement tout à l'heure. Mais enfin, on a un grand nombre de start-up, d'entreprises très innovantes, qui, dans une industrie de rupture comme l'est l'automobile aujourd'hui, apportent des solutions et aident cette industrie à se transformer et à ouvrir de nouveaux marchés.
Alors, on recevra énormément de start-up liées à l'automobile et aux mobilités, à la fois dans Tech & Co, CES de Las Vegas, mais aussi dans notre émission que vous retrouvez le week-end sur BFM Business En route pour demain, qu'on réalisera depuis le CES aussi. Dites-nous, tiens, allez, trois startups que vous accompagnez au CES qui sont dans la mobilité, Mathieu.
Et qui sont particulièrement représentatives de ce qu'on va retrouver comme savoir-faire. On peut citer Xway, qui fournit des solutions logicielles pour l'identification et la modélisation 3D, donc qui utilise les données des capteurs issues des capteurs LIDAR.
Les LIDAR, ouais.
On peut citer évidemment Symbio. Je citais à l'instant Michelin et Faurecia. Symbio, c'est une startup grenobloise qui a été créée il y a une dizaine d'années, dans laquelle Faurecia et Michelin ont pris des parts, qui est devenue leur filiale commune dans l'hydrogène et plus particulièrement dans la pile à combustible, qui a annoncé récemment 1 milliard d'investissements dans son usine française pour être en capacité de fournir des piles à combustible dès 2023, notamment pour le groupe Stellantis. On pourrait citer également enfin Epic & Poc qui est là aussi, qui fournit des solutions logicielles et qui est un peu à la croisée du design, de l'expérience utilisateur, de l'innovation, qui là est plus spécialisé dans les cockpits intelligents, et donc qui permet de développer ce genre de solution.
Oui, parce que rappelons que demain, lorsque la voiture sera autonome, si on y arrive un jour, parce qu'on voit que c'était un peu le rêve à la mode il y a quelques années, puis on voit que c'est pas si facile que ça, au niveau technologique, mais aussi au niveau réglementaire. Voilà, on n'aura plus de volant, peut-être un jour, et à ce moment-là, c'est vrai que ce genre d'entreprise prendra tout son sens.
Concrètement. Et puis peut-être le défi auquel on assiste aujourd'hui, c'est également l'entrée massive des véhicules électriques sur le marché. Et avec
toutes les infrastructures qui doivent suivre derrière.
Exactement. Et c'est les deux enjeux, mais on a une croissance. Enfin, on a en 2021 plus de 6,6 millions de véhicules électriques qui ont été vendus, soit deux fois ce qui a été vendu en 2020. Donc on a une croissance exponentielle. Cette croissance, elle est tirée essentiellement par trois marchés, la Chine évidemment, l'Europe et puis les États-Unis, d'où l'importance pour nous d'être aux États-Unis. Mais on a un arsenal législatif qui se met en place, comme vous le dites, pour développer les infrastructures, pour favoriser la croissance de cette filière.
Merci beaucoup Mathieu d'être passé par le plateau de Tech & Co. Et on se retrouve donc dans un mois.
Hein, exactement.
Sur notre plateau délocalisé au CES de Las Vegas. Rappelons que vous êtes directeur expertise sectoriel chez Business France. Business France qui est partenaire de Tech & Co pour ce CES. Merci.
Merci.
Et direction tout de suite, non pas Las Vegas, écoutez, c'est pas mal. On va à New York, comme chaque soir.
Tech & Co. What's up New York?
Bonsoir Sabrina Cagliosi, ravie de te retrouver.
Ravie de te retrouver François.
Alors dans l'actualité, tu as sélectionné pour nous le mode Apple, le mode karaoké d'Apple qu'on va évoquer dans un instant. Mais auparavant, tu vas nous parler de cette start-up. Alors je pense qu'on prononce Archive ou Archive, je ne sais pas trop. Comment tu dis toi?
Archive. Archive à la française.
Archive, c'est mignon. Tu veux, en plus, ouais. Voilà. Qui lève donc 15 millions de dollars pour permettre aux marques de profiter du marché florissant de la seconde main. Mais attention, pas n'importe quelle seconde main, celle du luxe.
Ah, mais oui, la seconde main du luxe. Pendant longtemps, les marques ont méprisé ce marché, considéré comme parallèle. Bah, sauf qu'aujourd'hui, ce secteur de la revente, en général d'ailleurs, hein, pèse lourd, très très lourd. Et bien qu'il ne représente encore qu'une petite partie hein, du marché global de la mode et du luxe, bah, son taux de croissance annuel devrait atteindre entre 15 et 20% d'ici à 2025, selon Boston Consulting Group. Difficile donc à ignorer. Du coup, bah, de nombreuses marques se sont associées sur les dernières années à des sites spécialisés dans la seconde main de luxe pour encourager la revente de leurs propres produits. Et c'est donc là qu'intervient notre start-up du jour qui a été lancée il n'y a pas très longtemps, février 2021. Archive veut aider les marques à remonétiser leurs propres produits grâce à leur propre programme de revente. La start-up a ainsi développé une plateforme de revente peer-to-peer qui facilite la mise en relation entre acheteurs et vendeurs. La start-up a aussi développé, c'est intéressant, un système de gestion d'entrepôt qui facilite en fait la revente d'articles de luxe qui auraient fini à la poubelle. Hein, les invendus, les articles retournés ou encore abîmés. Leur logiciel identifie hein, tous ces articles et ça fonctionne puisque la société a vu ses revenus multipliés par pratiquement 10 sur les 12 derniers mois. Elle travaille aujourd'hui avec 32 marques, dont North Face, Oscar de la Renta. La société annonce donc aujourd'hui lever 15 millions de dollars, ce qui porte à 24 millions de dollars le montant levé depuis le début, depuis son lancement, depuis février 2021. Donc c'est le clin d'œil du jour dans ce marché florissant. Et donc bien sûr, hein, tout le monde veut sa part du gâteau à surveiller. Donc Archive, société start-up du jour aux États-Unis.
Voilà, qui lève donc, tu le disais, 15 millions de dollars. Dans l'actualité aussi, c'est Apple. Apple qui, peut-être l'avez-vous si vous avez l'appli Apple Music, propose une nouvelle fonctionnalité, Sabrina.
Ouais, c'est Apple Sing. Nouvelle fonctionnalité d'Apple Music donc qui va en fait afficher les paroles en temps réel sur des millions de chansons grâce à un seul clic. Alors, c'est pas nouveau, tu vas me dire, hein. C'est avec iOS 13 en 2019 que Apple avait ajouté les paroles à Apple Music, mais bon, cette fonctionnalité n'avait pas trop évolué depuis. Et puis on avait vu d'ailleurs aussi hein, des offres similaires sur des sites concurrents. Et ben aujourd'hui, grâce à Apple Sing, Apple va donc beaucoup plus loin. Alors l'affichage des paroles pour ceux qui sont fans de karaoké se fait désormais syllabe par syllabe et non plus ligne par ligne. C'est quand même, ça facilite les choses, hein. Ça permet de synchroniser le rythme d'un morceau, de se synchroniser au rythme d'un morceau. Il y a un bouton qui permet désormais de ne contrôler que le volume des paroles. Les morceaux optimisés peuvent être écoutés en version acoustique directement depuis le morceau original. En cas de duo, bah oui, ça se fait aussi hein, pendant des karaokés, bah, Apple Music affiche les paroles sur deux colonnes, hein, ce qui est plutôt sympa. Le premier chanteur à gauche, l'autre à droite. Avec plusieurs voix, il y a aussi un mode qui permet cette fonctionnalité, hein, cette option. La voix principale, eh bien, apparaît en plus grand. Ça permet de ne chanter que la bonne ligne, donc, pendant un karaoké. Bref, l'un des systèmes de karaoké hein, souligne ceux qui ont pu tester hein, cette nouvelle fonctionnalité karaoké maison, hein, les plus impressionnants du marché. Rappelons quand même que le catalogue d'Apple Music comprend environ 100 millions de titres. Alors, Apple prévient quand même qu'en raison du processus pour pouvoir passer hein, sur Apple Sing, il y a encore du chemin à faire pour avoir tout le catalogue d'Apple. Hein, au début, pour le lancement aujourd'hui, il y a seulement 80% des titres les plus écoutés d'Apple Music qui sont disponibles donc sur cette nouvelle fonctionnalité d'Apple Sing. Et bien sûr, bah, ça va augmenter hein, au fil du temps. Pour faciliter en tout cas la recherche des chansons, Apple indiquait qu'il allait mettre à disposition 50 playlists avec donc toutes les chansons préférées disponibles en karaoké. De quoi arriver à temps, bien sûr, François. Pour les fêtes de fin d'année,
oui.
En famille, entre amis, entre collègues, François, pour se faire donc des petites soirées karaoké grâce donc à son iPhone. Alors il faut au moins un iPhone 11, Apple TV, donc tout l'écosystème Apple. Donc petit clin d'œil sur cette nouvelle fonctionnalité d'Apple, Apple Sing, qui se lance ce mois-ci.
Alors on m'a dit que tu étais une spécialiste du karaoké et que tu allais nous faire une démo ce soir, Sabrina, c'est vrai ?
Eh bien oui, j'ai une chanson qui est présente. Je vais éviter de vous faire ça quand même. J'adore le karaoké, mais on va éviter.
J'adorerais que tu nous fasses un cliffhanger comme ça, que tu te retournes, que d'un coup, il y a la boule à facettes qui arrive dans ton plateau.
Seulement si tu fais avec moi. Allez, François.
Écoute, il va falloir qu'on organise ça, franchement.
On se fait un
duo. Mais tu sais quoi, la prochaine fois que tu viens sur Paris, on se fait un karaoké. Voilà, c'est promis. On prendra un Apple TV et on s'amusera. Merci beaucoup Sabrina, comme chaque soir. Sabrina Cagliuzzi depuis New York. À demain. Et vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant avec au sommaire pour notre deuxième heure de Tech & Co. Plein de bonnes choses. On va parler de cette école qui a ouvert il y a quelques jours de cela et qui a été inaugurée par Microsoft et Simplon. Je recevrai Corinne de Bilbao dans un instant, entre autres présidente de Microsoft France, qui est une école qui est là pour former les futurs, on va dire, spécialistes de la cybersécurité. Et puis en deuxième partie de Tech & Co, ce sera notre rendez-vous French Tech, hein, vous l'avez vu, avec deux startups bien sympathiques que nous recevrons tout à l'heure, qui œuvrent pour l'environnement. Vous verrez, on les découvrira, ce sera aux alentours des 21h40. Vous restez avec nous, l'actu de ce jour avec Frédéric Bianchi dans un instant, on découvrira aussi la première voiture qui fonctionne à l'énergie solaire avec Julien Bonnet. On revient dans un instant, à tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Merci d'être avec nous, Tech & Co sur BFM Business. Et je vous propose maintenant de découvrir une initiative très intéressante pour essayer de former les futurs ingénieurs en cybersécurité, parce qu'il faut savoir qu'il y a une vraie pénurie, alors vous le savez, dans tous les domaines de la tech, hein, dans tous les métiers de la tech, mais particulièrement dans le domaine de la cybersécurité. L'actualité nous rattrape quasiment tous les jours, hein, avec de nouvelles attaques, des TPE-PME qui sont pour certaines aux abois suite à voilà des ransomware qui viennent paralyser hein, leur activité. Et on va découvrir cette initiative menée conjointement par Microsoft et Simplon, mais aussi par Advance, qui ont inauguré il y a quelques jours leur première école dédiée à la cybersécurité. Et plateau de choix ce soir dans Tech & Co, puisque nous avons Corinne de Bilbao qui est avec nous. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Microsoft France.
Absolument.
Frédéric Bardot est avec nous aussi, président et cofondateur de Simplon.
Bonsoir.
Bonsoir Frédéric. Alors vous êtes voilà, à la tête d'une boîte qui propose des formations au métier du numérique dans toute la France et à l'international. D'où Voilà cette association avec Microsoft. Mmh. Et David Buand est avec nous aussi. Bonsoir David.
Enchanté, bonsoir.
Directeur général d'Advance, qui voilà, est une boîte de cybersécurité en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Advance?
En quelques mots, on est un pure player français de la cybersécurité. Donc 400 personnes et on intervient sur tous les métiers de la cybersécurité en France.
Voilà, très bien. Et donc vous touchez du doigt le problème aujourd'hui du recrutement, j'imagine, non?
Oui, complètement. Alors on recrute beaucoup chez Advance, hein, 100 personnes par année à peu près. Maintenant, c'est un métier en pénurie très très forte, il y a une guerre de talents. En France, les estimations donnent, il manque environ 15 000 personnes, et même s'il y a de plus en plus d'écoles, le besoin s'étend, puisqu'en fait la digitalisation elle est sans limite. Donc voilà, 15 000 personnes ça va rester, et c'est pour ça qu'il faut agir et trouver des solutions originales.
Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez du mal à recruter en quelque sorte les profils que vous voulez?
C'est extrêmement difficile, alors il y a plein de raisons pour cela, mais c'est extrêmement difficile, il y a une vraie lutte pour attirer les talents dans les entreprises de cybersécurité.
Et comment faites-vous aujourd'hui? Vous êtes obligé de recruter à l'étranger, de faire venir par exemple des talents européens, voire américains ou asiatiques?
Alors le problème c'est que la tension elle est mondiale. Donc,
oui, donc en fait voilà.
Voilà. Êtes, je ne connais pas un seul pays en Europe et aux États-Unis ou en Amérique du Nord qui ne soit pas en tension. Mm-hmm. Donc voilà, donc le sujet c'est pas d'importer, c'est plutôt de former, et d'où l'initiative avec Simplement Microsoft.
Corinne, alors Microsoft bien sûr au cœur de tout ça, hein, vous êtes un
absolument,
peu...
Absolument, oui.
Voilà, la boîte qui fédère tout cela. Mais pourquoi s'intéresser à ce sujet particulièrement et de vous y investir en France?
C'est un sujet qui est quand même un sujet d'actualité, hein. La recrudescence des cyberattaques, 921 attaques par mot de passe chaque seconde. Recrudescence des cyberattaques, notamment les attaques russes. Hein, 96% des attaques qui sont dirigées contre des clients de l'OTAN. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui, c'est le sujet de toutes les entreprises, de toutes les organisations, dans toutes les conversations. Et évidemment, il faut des compétences. Donc, David citait le chiffre de 15 000 par an. Nous, on a engagé un plan de compétences en mai dernier, où on s'engage à former 10 000 personnes d'ici 2025.
Donc, en France?
En France. Donc, évidemment, il y a de la formation professionnelle, il y a des étudiants qui vont arriver sur le marché du travail, mais on a une conviction qu'on partage depuis 4 ans avec Frédéric, qui est qu'il ne faut pas former que des gens Bac plus 5 et 7, parce qu'il n'y en a pas. Et donc, le programme qu'on a fait avec Simplon, c'est aussi de donner accès à des demandeurs d'emploi à ces métiers, qui sont des métiers en tension et qui sont des métiers d'avenir. Et c'est toute la beauté de ce programme, avec Simplon, avec nos partenaires, et donc d'où l'idée de créer cette école de cybersécurité qu'on a lancée il y a maintenant 2 semaines. Et on a évidemment plein d'autres projets en région pour ramener sur le marché de la cybersécurité des gens qui sont aujourd'hui des demandeurs d'emploi.
Voilà, alors école dédiée à la cybersécurité, mais aussi à l'intelligence artificielle, je crois. Enfin,
vous avez pas plein de choses. Hein.
Sujets en commun, j'ai l'impression.
On a déjà 66 écoles, dont une cinquantaine en intelligence artificielle depuis 2018.
Dont une qui est ouverte il y a pas longtemps à Clermont-Ferrand, je
absolument,
crois.
Absolument. Aujourd'hui, on a formé presque 1000 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 84% de retour à l'emploi. Donc, c'est un très beau succès parce qu'il y a un vrai partenariat pédagogique. Nous qui apportons la technologie et nos partenaires comme Advance qui vont prendre en alternance, offrir les emplois de demain. Donc, c'est un beau succès. Et donc, on s'est dit fort de ce beau succès en intelligence artificielle dans le cloud. On va lancer la cybersécurité parce que aujourd'hui, toutes les entreprises recherchent des profils. Et les profils, aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Donc, on va aller chercher des profils que personne n'aurait été chercher. Et on a des très, très belles histoires. C'est en plus une super belle aventure humaine, honnêtement.
Ah bon, si vous avez de belles histoires, vous allez nous en raconter une dans un instant.
Absolument, hein, avec plaisir.
J'adore les histoires. On va donner la parole aussi à Frédéric, donc président et cofondateur de Simplon. Quel est votre rôle dans tout ça, Frédéric? Et peut-être un mot sur Simplon pour débuter.
Moi, vous l'avez dit, hein, c'est un réseau d'écoles gratuites qui cible plutôt les demandeurs d'emploi et qui essaye de résoudre les problèmes des employeurs en amenant en plus des profils atypiques, de la diversité. Donc on résout deux problèmes, le chômage et des talents atypiques et les besoins non couverts en termes de profils de juniors.
Et ça nécessite une agilité incroyable parce que finalement, Microsoft vient vous voir en disant il manque des ingénieurs en cybersécurité, débrouillez-vous, trouvez-nous un cursus pédagogique, quoi, en quelque sorte.
Le bâtit tous ensemble parce que Microsoft a une position incroyable. incroyable d'observateur aussi des compétences et des besoins de son écosystème. Donc en fait, moi je bois du petit lait. On a un acteur de référence qui fait remonter tous les besoins, qui nous trouve les entreprises, qui nous aide à construire le référentiel. Nous, on n'a plus qu'à trouver les demandeurs d'emploi, faire la formation, et puis voilà, ils font
et
tout
puis
le
les
reste.
Les enseignants aussi,
bien sûr, les formateurs,
les lieux, enfin les organisations.
Oui, oui, non,
enfin,
je dis pas qu'on fait rien, mais c'est vrai que c'est des conditions
de
idéales.
Comme ça sur un piédestal.
Non, mais
c'est fait beaucoup de choses.
Bon, quand même que c'est enfin l'agilité, c'est fou. C'est assez intéressant. Corinne, comment ça se passe justement la rencontre avec Simplon? Et qu'est-ce que vous échangez en termes de compétences pour arriver à créer cette école?
Alors c'est intéressant parce que nous on apporte beaucoup d'expertise, hein, d'expertise technologique pour bâtir les programmes par rapport aux attentes des entreprises avec lesquelles on part. Notre réseau de partenaires aussi, hein, on travaille avec beaucoup de partenaires. Mais ce qui est intéressant, en particulier dans cette école, j'y suis allée, c'est toute l'expertise humaine aussi de Simplon, bon, pour construire le programme pédagogique, et puis pour arriver à conduire ce sas de préqualification, c'est-à-dire de construire toutes ces compétences auxquelles on pense pas, pour que les gens soient préparés à être intégrés dans ces écoles, et puis en avoir aussi, voilà, à s'approprier les codes et à se sentir aussi en confiance, parce qu'il y a aussi tout un travail de rétablissement de la confiance quand on va vers des profils qui sont un petit peu différents. Simplon a un vrai savoir-faire là-dessus, et on a rencontré des personnes qui étaient très très éloignées de ces métiers-là et qui un jour ont poussé la porte de Simplon, comme ils disent, en disant mais finalement moi aussi je peux protéger, hein, j'aime bien ces histoires en disant j'ai envie de protéger, finalement quand on fait de la cybersécurité on protège des personnes et des organisations, et qui ont commencé par là, et là simplement un vrai savoir-faire humain, parce qu'il y a beaucoup d'humanité, de rencontres dans ça, c'est beaucoup de sur-mesure.
C'est des profils atypiques, hein, le dit chez Advance, s'ils avaient reçu les CV des gens qui sont dans leur école, jamais ils les auraient pris. Vraiment, parce qu'ils cochent pas les cases. Après, apparemment ils cochent pas les bonnes cases. Mais en les rencontrant, je pense.
Et en fait, c'est une erreur, parce qu'en fait, on a besoin de diversité pour faire face à des attaquants qui sont très diversifiés. Donc voilà, donc diversité de genre, d'horizon. Et parmi les apprenants, il y a des gens extraordinaires. Enfin, c'est vrai qu'il y a des belles histoires. Moi, j'ai en souvenir une jeune femme qui voulait faire de la cybersécurité depuis toute jeune, et une conseillère d'orientation qui lui dit, ben non, l'informatique, c'est pas pour les femmes. C'est quand même incroyable. Et qui revient, quoi, 10, 15 ans après.
Et c'était une conseillère d'orientation, en plus.
Absolument.
Ouais. C'est incroyable, Corinne.
Oui, c'est incroyable. Moi, ça me... Je dois dire que ça m'a un peu effrayée, mais...
On peut même pas condamner. Si c'était un conseiller, on aurait pu dire, ok, d'accord, mais là, c'était une conseillère.
Donc, il y a quand même encore des... il y a encore des préjugés sur ces métiers-là, et cette aventure humaine, c'est aussi de faire tomber ces préjugés. Et aujourd'hui, il y a 18% de femmes dans cette école. Bon, on souhaite qu'il y en ait plus, mais il faut savoir que dans la cybersécurité,
c'est déjà pas mal, 18, hein.
En France, il y en a moins de 11%. Donc, on pousse effectivement pour intégrer, ouvrir ces métiers, en expliquant que ces métiers sont ouverts à tous et à toutes.
Il y a des charges c'est pour cette conseillère d'orientation. Les métiers de la tech, c'est pas facile à comprendre. Il y en a plein de différents, il y a plein de niveaux. Ouais. Et puis en plus cette conseillère, j'imagine qu'elle doit donner des conseils sur plein de métiers différents.
Terminons cette histoire qui doit bien se terminer quand même, j'imagine.
Tout à fait.
La conseillère lui dit non.
Donc elle part dans des métiers, je dirais, jugés plus féminins. Et puis 10 ans après, elle dit mais c'est pas ce que je veux faire. Et donc elle revient à l'informatique, elle revient à la cyber. La voilà chez Simplon et prête à démarrer bientôt. Donc mais il y a plein d'histoires comme ça.
Donc elle est chez vous là?
Elle est en formation, elle a commencé il y a 2 semaines, elle va finir soit chez Advance, soit chez des partenaires de Microsoft. Donc
Et ce qui est extraordinaire dans la cyber, souvent la grosse majorité des salariés en fait sont des Bac plus 5, Bac plus 7. Et en fait, on est persuadé chez Advance, avec Microsoft, avec Simplon, qu'il y a moyen vraiment d'aller chercher des talents, de les amener au niveau, et quelque part d'ouvrir la voie, pour ouvrir un nouveau volant de talents qui vont venir pouvoir grossir les rangs de la défense. Parce que Dieu sait qu'il y a du monde en face aussi qui attaque. Et donc voilà, il ne faut pas qu'on se bloque.
On n'est pas obligé d'avoir un long cursus, non, donc 5 ou 7 ans d'études, pour pouvoir réussir dans la sécurité, dans la cybersécurité.
Il y a beaucoup de métiers.
Exactement. Alors déjà, il y a beaucoup de métiers. Deux, l'approche pédagogique de Simplon est très particulière. Enfin, souvent, nous, on reçoit des bacs plus 5 et pratiquement, on doit les reformer. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de savoir, mais ils n'ont pas le savoir-faire. Et là, je trouve, c'est toute l'approche de Simplon.
C'est-à-dire qu'ils ont, un savoir académique qui ne correspond
ils
pas
ont beaucoup
forcément
de connaissances.
À vos besoins au quotidien.
Voilà, souvent, on les prend en alternance, on les prend en stage. Et les 6 premiers mois, les 18 mois d'alternance, on les forme réellement au métier. Et là, c'est ce qu'on fait.
Parce que là, ils mangent des projets matin, midi et soir. Donc, ils font que des choses réalistes ou réelles. Donc c'est vrai que ça permet de monter en compétences assez rapidement.
Mais c'est un problème quand même, enfin je fais une petite parenthèse, c'est un problème de voir arriver tous ces jeunes qui ont 5 à 7 ans d'études et qui sont un peu déconnectés de la réalité de l'entreprise, non ? Alors, on sait
après,
que...
ils ont un bon socle, hein.
Ouais,
c'est des
pièces
bien faites.
Mais on se rend compte que parfois, ils sont un peu perdus. Et vous êtes obligé de les remettre à niveau. Alors bon, c'est peut-être un peu normal.
Encore une fois, ils finissent par un stage, ils finissent par une alternance. Et c'est là où ils mettent en pratique tout ce qu'ils ont appris. Maintenant, c'est sûr que la théorie ne suffit pas, il faut de la pratique. Et je trouve que c'est une très grosse force au Simplon.
Mais est-ce qu'il faudrait plus de pratique plus tôt, en fait, dans leur cursus, à votre avis ?
Voilà, je ne suis pas expert pédagogie.
Je pense que la pédagogie par projet, elle s'adapte bien aussi dans le monde universitaire. Et il y a des gens qui le font, des écoles qui le font, hein, aussi à Bac plus 5, mais avec des projets, on voit bien la différence. Et là, peut-être parler du métier, hein, qui est vraiment le métier d'opérateur de sécurité cloud et hybride, donc c'est très spécifique, hein, la cybersécurité, ça n'existe pas. Il y a plein de métiers différents, il y a juristes...
Et en fait, il consiste en quoi, ce métier ?
Bah David, ouais.
Il y a des dizaines de métiers. Donc évidemment, il y a le sérotype de la personne qui hack, qui vient tester en fait les défenses. Mais on a aussi des métiers.
Donc ça, c'est le gentil, en fait.
Exactement, le gentil pirate, hacker. Exactement, qui simule
une faille.
Voilà, qui empêche.
Et l'opérateur, il a un métier.
Il y a des métiers de conseil, de fonctionnel. Il y a des opérateurs de cybersécurité qui sont là derrière des écrans pour capter les signaux faibles et c'est ce qu'on va former hein, autour du cloud, autour de la cybersécurité, etc. Il y a aussi des juridiques. Il y a des sujets de conformité. Voilà. Donc les métiers, il y a des dizaines de métiers. Sécurité donc est tous passionnants. Il faut surtout pas s'arrêter en se disant que c'est super compliqué, c'est très technique. Évidemment, il y a des métiers très techniques, mais il y a plein de métiers accessibles à des gens motivés et que ça passionne en fait.
Avec des carrières florissantes, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités d'évolution et des rémunérations correctes.
C'est la loi de l'offre et la demande. Aujourd'hui, voilà, 15 000 personnes manquantes, donc voilà.
Oui, donc forcément, voilà, la loi de l'offre et la demande
s'applique aussi.
L'intérêt, c'est qu'il y a un diplôme reconnu par l'État, hein, donc diplôme avec et en plus, il y a les certifications Microsoft. Donc, c'est le meilleur
c'est
des deux
double,
mondes.
Double employeur.
Et ça, c'est super.
Et cette école se passe chez vous, chez Microsoft.
Et cette école se passe au campus. On a effectivement le
en
projet d'en ouvrir.
Pas commencer la formation.
Bah, avec plaisir. On va en ouvrir à Lyon, à Rennes. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Hein. On souhaite faire une centaine d'apprenants cette année. Donc,
comment se passe le cursus dure combien de temps ? Comment ça se passe ?
Alors, il y a 8 semaines de SAS, hein,
ouais,
c'est
un peu
de préqualification.
Voilà, de chauffe, quoi, de tapas avant le plat de résistance. Quoi.
Voilà.
Après, il y a 4 mois à temps plein et après.
Après l'alternance qui dure. Voilà.
Et vous vous engagez donc à prendre des alternants, évidemment, avec d'autres entreprises, j'imagine.
Et c'est
avec
ça qui déclenche tout, voilà. Les financements de Pôle emploi et tout ça, c'est parce qu'il y a des.
C'est-à-dire qu'en fait,
ils se committent et qui
finalement,
s'engagent.
Un élève qui suit ce cursus est quasi certain de trouver un emploi à la sortie.
C'est super
absolument
motivant. Vous rentrez en formation, vous connaissez déjà l'entreprise qui va vous accueillir, qui vous attend les bras ouverts en disant je t'attends. C'est vraiment ça. Hein.
Voilà. Et vous en attendez vous aussi chez Microsoft, j'imagine. Aussi.
Alors nous, on est surtout une filiale commerciale, donc on a moins on a moins d'alternance sur les métiers cybersécurité, mais on a notre réseau de 10 500 partenaires, donc on fait appel à tous nos partenaires et à toutes les entreprises. D'ailleurs, on lance un appel. Hein. En se disant que finalement on va ouvrir d'autres écoles et des écoles en région et mobiliser nos partenaires, c'est super important.
David, le mot de la fin. Donc les premiers alternants arrivent quand là ?
Eh ben ils arrivent début mars. On a lancé la promotion il y a une semaine. Franchement, ça faisait plaisir à voir. Il y avait énormément d'enthousiasme et d'envie. Donc j'ai hâte de les voir à l'œuvre.
Et accélérer sur les femmes, bien sûr.
Accélérer sur les femmes et puis aller
Est-ce
aussi dans les écoles.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes nos auditrices ou nos téléspectatrices qui nous écoutent ?
Il y a beaucoup de préjugés sur ces métiers-là et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un kit pédagogique pour les écoles, pour les enseignants, qui s'appelle La cybersécurité, mon futur métier, voilà, qui n'est pas du tout tagué Microsoft, mais qui explique simplement pour les professeurs et puis pour les étudiants qu'est-ce que ça peut être les métiers de la cybersécurité, parce qu'il y a énormément de préjugés. Et finalement, on se rend compte qu'on peut convaincre beaucoup de femmes aussi à rejoindre ces métiers-là. Donc on espère qu'avec nos apprenantes, ça donnera envie encore à d'autres de nous rejoindre.
Merci beaucoup à tous les trois. Voilà, cette école qui a ouvert en novembre, pour l'instant à Paris, mais après un peu partout en France. Hein. L'objectif, c'est que ce soit essaimé sur notre territoire.
Absolument.
Merci Corinne de Bilbao, présidente de Microsoft France. Frédéric Bardot, donc président et cofondateur de Simplon, et David Buhan, directeur général d'Advance.
Merci
à tous les trois.
Merci à vous.
Pour rester avec nous, la suite de Tech & Co dans un instant, juste après l'info éco de Faeza Younsi. À tout de suite.
Tech & Co. Plongé dans la French Tech.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Je vous présente tout de suite nos deux invités. C'est notre rendez-vous French Tech. Deux boîtes qui œuvrent pour, deux startups qui œuvrent pour l'environnement. Ça fait toujours plaisir. Peut-être allez-vous les découvrir ce soir. Julien Blanchard, bonsoir.
Bonsoir.
Président du directoire et cofondateur de Hoffmann Green Cement.
Tout à fait.
Cement, ciment. On vous en dit plus dans un instant. Et puis, Antoine Deferre est avec nous. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Cofondateur de Tolve. Et vous, l'idée c'est de donner une seconde vie au véhicule thermique. Vous enlevez le moteur thermique et paf, vous mettez une batterie, un moteur électrique à l'intérieur.
Exactement.
Voilà. Bon, enfin, j'ai résumé. Après, il va falloir expliquer.
Très résumé, on va revenir dessus, mais effectivement, c'est déjà très clair.
Mais auparavant, parler avec vous, Julien, de cette société que vous avez créée en 2020 et qui...
2015.
Pardon, 2015. Désolé. Vous voyez, j'ai une mauvaise information. En Vendée, c'est bien ça ?
C'est ça.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on part d'un constat qui est imparable, c'est que fabriquer du ciment, c'est très énergivore. Voilà.
C'est extrêmement énergivore. Voilà,
c'est une catastrophe écologique de fabriquer du béton ou du ciment.
Hein. Du ciment traditionnel, oui, c'est une vraie catastrophe écologique parce que quand vous produisez une tonne de ciment traditionnel, vous générez dans l'atmosphère pratiquement une tonne de CO2.
Ouais, c'est
quand
pas
nous, chez Hoffmann, on divise par 5, voire par 6 les émissions de CO2 par tonne de ciment produite grâce à des toutes nouvelles technologies qui nous permettent de produire ce ciment à froid.
Et notamment avec des liants, parce que, expliquez-nous, le ciment de manière traditionnelle,
oui,
c'est fait en fait dans une énorme marmite. Alors, j'exagère un peu, mais il faut que ça monte en température en fait.
De façon extrêmement simple, vous prenez du calcaire dans une carrière, vous cuisez à très haute température ce calcaire, 1450 degrés durant 18 heures, c'est ce qui émet énormément d'émissions de CO2, voilà, pour obtenir du clinker. Et ensuite, ce clinker, c'est ce qui compose principalement ou majoritairement en fait le ciment traditionnel.
Il y a des additifs, j'imagine qu'il y a d'autres produits, oui, ou c'est simplement ce calcaire qui est réchauffé, qui se transforme en ciment?
C'est principalement le calcaire cuit à très haute température qui émet énormément d'émissions de CO2.
Mm-hmm.
Et chez Hoffmann, en fait, c'est radicalement différent. On n'utilise plus de calcaire, on n'utilise plus de cuisson, plus de four. On utilise des déchets issus de l'industrie, comme des argiles ou des laitiers de haut fourneau, qu'on vient ensuite activer à froid, à température ambiante. Vous verrez, dans notre usine, en fait, il n'y a pas de four, il n'y a pas de cuisson. Tout se fait à température ambiante. C'est pour ça qu'on arrive à diminuer drastiquement en fait les émissions de CO2 du ciment Hoffmann.
Alors attendez, parce que là c'est presque un coup de baguette magique en fait.
Alors ça a nécessité en fait des années de recherche et développement, je vous rassure.
J'imagine.
Ça c'est mon associé David Hoffmann en fait qui est le père de nos quatre technologies brevetées qu'on a aujourd'hui. On travaille d'ailleurs sur une cinquième, une sixième à l'heure actuelle. Et
donc une autre innovation.
Alors sur d'autres innovations pour sortir d'autres ciments, des futurs ciments,
parce que
faible empreinte carbone également.
C'est là où ça se complique, c'est qu'il y a plusieurs ciments. Alors, moi, je suis pas un spécialiste du BTP,
ciments,
je vous l'avoue.
Il y a plusieurs ciments issus de plusieurs technologies qui utilisent elles-mêmes plusieurs coproduits différents.
Voilà. Parce que chaque ciment est dédié à un usage bien particulier, c'est ça ?
Alors, chez Hoffmann, en fait, nos ciments sont utilisés en fait pour le domaine de la construction, notamment en fait la construction de logements, de logements collectifs ou individuels. La plupart
du ciment
du ciment traditionnel, voilà. D'accord. Sauf que nos ciments ne sont pas forcément gris, mais ils sont blancs. On fait pas forcément du béton gris, mais on fait du béton plus clair. Mais surtout, si vous voulez, ce qui est le plus important, c'est le bilan carbone de ces tout nouveaux ciments qui sont produits chez Hoffmann, qui ont un bilan carbone extrêmement faible par rapport aux ciments traditionnels.
D'accord. Donc, pas de chauffage. Enfin, vous ne chauffez pas ce calcaire, mais alors, malgré tout, c'est la matière première, c'est du calcaire.
Alors
ou pas
non, ce sont des coproduits ou des déchets, si
d'accord,
vous voulez,
okay.
Voilà, issus de l'industrie, donc des laitiers de haut fourneau.
Donc pas
des...
du tout de calcaire.
Non, il n'y a pas du tout de calcaire en fait dans nos
donc vous recyclez d'anciens matériaux.
On recycle en fait des déchets issus de l'industrie française ou européenne, d'accord, pour en faire des tout nouveaux produits finis. Voilà, à travers nos ciments.
Mais est-ce que on a la même résistance, les mêmes
Alors on a des résistances qui sont identiques, voire même supérieures en fait au ciment traditionnel. On sort de plus de 5 années d'essais, d'évaluation et de certification pour nos ciments qui sont aujourd'hui utilisés sur beaucoup de chantiers en France par toutes les majors de la construction française. Voilà, donc en France, mais aussi maintenant en Suisse et en Angleterre.
Et votre ciment est commercialisé, c'est-à-dire
On
peut aller dans des grandes surfaces de bricolage et acheter votre ciment.
Alors il est commercialisé à travers tout un réseau de centrales à béton.
D'accord.
Et il est aussi commercialisé chez des distributeurs de négoces en matériaux en fait. Voilà, okay. Qui ont nos sacs de ciment, les sacs de ciment Iona.
Ils sont plus chers ? évidemment.
Ils sont un peu plus chers. Ils sont un peu plus chers que les sacs de ciment traditionnels. C'est un peu normal, si vous voulez, parce qu'on démarre une vraie aventure industrielle. Oui.
Alors que le paradoxe, à terme, vous devriez être moins cher. Alors, puisqu'en fait, ça nécessite moins d'énergie dépensée.
Vous avez raison.
En fait, pour fabriquer ce ciment.
On avait anticipé un croisement des courbes de prix pour 2030 à peu près, et finalement, ce croisement des courbes va être
avec l'explosion du prix de l'énergie, je pense que ça va.
Voilà, et on anticipe plus un croisement de ces courbes vers 2026.
Voilà, vous avez trois sites de production aujourd'hui et 300 000 tonnes de capacité.
On a 300 000 tonnes de capacité de production en Vendée et on vient en fait d'annoncer là aujourd'hui la certification des crédits carbone Hoffmann parce que nos produits, si vous voulez, étant très verts et très décarbonés, on a pu obtenir en fait la certification de crédit carbone pour chaque tonne de ciment produite chez Hoffmann Green.
D'accord. Votre challenge là, c'est de convaincre de plus, enfin, de, j'imagine, des Bouygues, enfin, je dis alors, pas Bouygues, mais enfin, de grandes entreprises de BTP d'utiliser votre matériau.
Le marché du ciment français, c'est 18 millions de tonnes consommées chaque année en France. 18 millions de tonnes. On a une ambition, nous, chez Hoffmann, de capter 3% de ce marché-là à horizon 2026, soit environ 550 000 tonnes. Ça sera nos capacités de production qu'on aura à horizon 2026.
Très bien. Vous restez avec nous, Julien. C'est très intéressant, tout cela. Autre innovation intéressante, transformer votre voiture thermique en voiture électrique. C'est ce que propose Tolv, qui est donc un spécialiste de cette conversion de véhicules. Utilitaire, attention. Hein. Là, on est sur l'utilitaire, pas le particulier, mais on va évoquer tout cela avec vous, Antoine. Présentez-nous Tolv, s'il vous plaît.
On a créé Tolv en septembre 2019 avec mes quatre associés. On est parti d'un constat qui est ultra simple. Il y a actuellement 1 milliard de véhicules qui sont présents sur Terre. Ce milliard de véhicules va forcément transitionner vers une nouvelle énergie, ça y a aucun doute. Mais la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce milliard de véhicules ? Est-ce qu'on le met à la casse ? Ou est-ce qu'on essaie d'en faire quelque chose et d'utiliser cette ressource qui est déjà présente ? Vous l'avez dit, évidemment, on a choisi cette deuxième option.
C'est ce qu'on appelle le rétrofit.
Exactement. Alors, c'est le terme qui est arrivé en France. En fait, le rétrofit existe dans plein d'autres industries. Parlait juste avant des produits Apple. Typiquement, c'est un peu du rétrofit de produits Apple. Nous, on aime bien se définir comme des néo-constructeurs automobiles, comme on a vu des néo-banques ou autres, puisqu'on apporte une nouvelle manière de produire du véhicule électrique. Et donc, effectivement, on se concentre sur les véhicules utilitaires pour les professionnels et pour les collectivités.
Très bien, mais cela dit, ça a l'air quand même un chantier incroyable, ça, le fait de transformer un véhicule qui a été conçu pour le thermique, avec un moteur, des batteries pour démarrer, etc. Enfin, tout ce qui fait un véhicule thermique, et de le transformer en électrique, c'est pas une mince affaire cette histoire-là.
C'est pas une mince affaire, surtout.
Il suffit pas d'enlever le moteur et de mettre un truc. Faut stocker les batteries, il faut quand même avoir un minimum d'autonomie, j'imagine, surtout pour un utilitaire.
Absolument. En fait, ça a été un chantier technique ultra important, surtout jusqu'à maintenant, jusqu'à l'obtention de notre homologation qu'on a eue il y a quelques mois, nous aussi, pour la conversion du Renault Trafic qu'on voit juste derrière vous. En fait, on a conçu un produit qui a vocation à être plug and play. Donc ça veut dire qu'on a fait 1 an de développement pour développer une sorte de pack qui va à l'avant avec le moteur, la clim, la direction assistée, les accessoires, etc.
Donc vous vendez tout le kit.
Le kit et on l'installe.
Et vous l'installez
dans le véhicule. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis 1 an pour développer ce kit et pour l'homologuer. Mais aujourd'hui, il faut 48 heures pour l'installer dans le véhicule d'un de nos clients. Donc ça veut dire que vous arrivez le lundi matin chez un de nos garages partenaires.
Ma voiture est
et le
diesel.
Mardi soir, c'est bon. Exactement. Alors, il faut que vous ayez
le lundi matin, elle est diesel et le mercredi soir, elle est électrique.
Elle est électrique, elle fait plus de bruit, elle est critère zéro, donc vous pouvez à nouveau rentrer dans les ZFE et dans Paris et ça sans problème.
Je peux enlever ma vieille étiquette critère 3.
Exactement. Critère 3, c'est pas encore les pires.
Critère 2. C'est quoi le pire?
Le pire, c'est les critères 5, forcément. Critère 5, mais bon, il y en a quand même de moins en moins. Ouais. À Paris, les critères 4 et 5 sont déjà bannis. Les critères 3, ça va pas tarder. Dans Paris, et ensuite, ça va s'élargir à l'intérieur de la 86. Et en France, il y a des ZFE qui se mettent en place, donc des zones à faible émission, dans lesquelles il y a des calendriers d'interdiction de véhicules. Il y en a 19 actuellement en France. Il y en aura 45 à l'horizon 2026. Et il y en a 240 dans l'Union européenne. Donc c'est un problème qui va se développer, d'autant plus que les constructeurs n'arrivent pas à produire des véhicules électriques neufs au vu des conditions macroéconomiques qu'on peut connaître. Il y a un gap énorme entre l'offre de véhicules et la demande de véhicules qui va que s'intensifier avec ces interdictions de circuler.
Électrifier un véhicule utilitaire, c'est conserver malgré tout une fiabilité. Alors ça, c'est automatique, puisqu'on le sait que l'électrique est beaucoup plus fiable qu'un moteur thermique. Ça nécessite moins d'entretien. Mais malgré tout, il faut quand même qu'on ait de l'autonomie.
Oui.
Vous mettez des batteries de combien sur un véhicule utilitaire et on peut espérer avoir combien d'autonomie?
En fait, pour nous, l'autonomie, ça n'a pas été le sujet le plus prioritaire pour la conception de ce premier produit, parce qu'on vise un usage qui est très urbain. Donc on vise des professionnels qui font des livraisons de Paris extramuros à intramuros, ou même ville extramuros à intramuros tout court. On vise des artisans qui font des tournées d'intervention, des collectivités. Donc nous, on a une autonomie réelle sur le Renault Trafic qui est de 150 km. Autonomie réelle avec la charge utile complète, etc.
Le chauffage, autoradio.
Le chauffage, la radio et quelqu'un à l'intérieur qui conduit pour de vrai, pas en descente.
D'accord.
Donc c'est une autonomie qui correspond à un usage, mais effectivement, ce ne sera pas le nôtre qui partons en week-end de temps en temps, où il faut avoir une voiture pour aller un peu plus loin voir un client ou des choses comme ça. Mais par contre, pour un professionnel, pour un véhicule qui a cet usage-là, c'est parfait. On proposera plus tard plus d'autonomie ou des standards de charge plus rapides pour correspondre à des professionnels qui font par exemple deux tournées.
Bien sûr.
Mais pour cet usage-là, c'est parfait. Et en fait, même pour l'usage électrique, c'est un débat qui est un petit peu plus large, mais la course à l'autonomie n'est pas spécialement la meilleure course, parce que mettre plus d'autonomie, ça veut dire mettre plus de batterie.
Oui.
Donc charger davantage le véhicule.
Avoir un véhicule plus lourd,
avoir un véhicule qui est plus intense en termes de métaux issus de terres, etc.
Qui coûte plus cher.
Donc, si on veut plus d'autonomie, peut-être que l'électrique n'est pas la meilleure technologie, mais donc nous, on s'est concentré sur un usage pour lequel on correspond parfaitement avec le standard électrique.
Très bien. Est-ce qu'on peut imaginer demain un système hybride sur ce type de véhicule, ou est-ce que c'est vraiment trop une usine à gaz?
Ouais, alors je pense que l'hybride, on ne le fera pas. L'hybride, ça
existe en rétrofit, ça, ou pas?
Je pense pas. Je saurais même pas dire si c'est autorisé avec la réglementation, mais en fait on le ferait pas, parce que déjà ce serait vraiment très difficile à faire.
Caser dans le volume du véhicule. Exactement. À la fois les deux technologies, là, ce paraît compliqué.
Là ce serait horrible, et aussi parce que environnementalement parlant, je pense que l'hybride a été un excellent moyen de transition pour montrer que l'électrique est disponible.
Ça serait finalement revenir en arrière.
Mais en fait, donc en fait, si on devait changer de technologie ou aller vers, faire un croisement technologique, on choisirait plutôt d'aller sur de l'hydrogène. Donc on conserverait l'électrique pour des véhicules qui ont un relatif petit volume. On irait plutôt sur de l'hydrogène pour des gros volumes, ce qui est autorisé par la loi par ailleurs, mais c'est pas pour tout de suite. On a encore pas mal de travail.
Il y a encore pas mal de chantiers à résoudre et d'équations à résoudre concernant l'hydrogène. Ça coûte combien de transformer son véhicule thermique utilitaire en véhicule électrique?
Notre objectif, c'est d'être toujours 2 à 3 fois moins cher que l'équivalent électrique neuf. On considère que c'est là où on a du sens. Donc sur le Renault Trafic, on est à 19 000 euros subvention nationale déduite, et après il y a d'autres aides régionales qui peuvent s'appliquer, par exemple.
Donc c'est pas anodin quand même, hein?
Non, c'est pas anodin. L'équivalent électrique neuf situé entre 40 et 50 000 euros sans option et sans aménagement. Là vous conservez toutes vos options, tous vos aménagements, donc la fourchette de 2 à 3 fois moins cher est pile dans la cible. Et en fait, on se rend compte que 19 000 euros, ce serait le prix d'un diesel, mais en fait, qu'on pourrait quasiment plus utiliser. Donc en fait, c'est un renouvellement qui est relativement neutre, par rapport au prix d'un neuf thermique, et qui est 2 fois moins cher vis-à-vis de l'électrique. Et sur le Master, qui est la gamme qui est un tout petit peu plus grosse, on sera pareil aux alentours de 21 000-22 000 euros. On le fait en partenariat avec le groupe Renault, celui-ci, mais donc on sera aux alentours de 21 000-22 000 euros, ce qui est aussi largement 2 à 3 fois moins cher que l'équivalent électrique neuf.
Aujourd'hui, partenariat avec Renault, mais l'idée, c'est de multiplier ces partenariats avec d'autres constructeurs, j'imagine.
Alors avec d'autres constructeurs, ça ce sera à voir. En tout cas, notre objectif, c'est de ne pas produire que des Renault. Ça c'est sûr, on a vocation à être multimarque, multimodèle. On a commencé par Renault Trafic, Renault Master, parce que ce sont les deux véhicules les plus utilisés par les professionnels en France. Mais ensuite, il y a le Fiat Ducato, le Jumpy, le Jumper, et on a encore beaucoup de travail pour notre équipe de conception.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Déféré, donc cofondateur de Tolve, basé près de Grenoble.
Exactement, à Grenoble, oui.
Parfait. Merci d'être venu sur le plateau de Tech & Co, et encore merci à Julien Blanchard. Donc.
Merci à vous.
Là, c'était la Vendée.
Tout à fait.
Notre rendez-vous French Tech se termine. Vous restez avec nous. Dans un instant, ce sera notre point Tech Leader, comme chaque mardi soir, avec Étienne Brac qui nous rejoint sur ce plateau. A tout de suite.
Tech Leaders, le focus.
Le Focus Tech Leaders avec Étienne Brac qui est avec nous. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François.
Et comme chaque mardi, on se plonge donc dans cet indice Euronext Tech Leaders. Étienne, l'indice se stabilise, tiens, par rapport à mardi dernier.
Oui, il se stabilise autour des 2300 points. Il stabilise depuis maintenant quasiment 3 semaines. Beaucoup d'attentisme avant la réunion de la Fed. Hein, on voit beaucoup d'attentisme sur les marchés, que ce soit sur cet indice du côté des États-Unis ou aussi en Europe avant la Fed. Hein, ça sera dans une grosse semaine, le 14 décembre.
Et on te retrouvera d'ailleurs sur ce plateau pour en parler. parler. On le rappelle donc, Euronext Tech Leader, c'est plus de 100 sociétés. Et dans l'indice, on retrouve Aramis, qui vit des jours compliqués, c'est le moins qu'on puisse dire en bourse. Là.
Ouais, notamment depuis son introduction en bourse. Hein. Souvenez-vous, c'était en juin 2021. Le titre a perdu 80% depuis. Et vendredi, vous avez le groupe qui a publié ses résultats annuels, exercice décalé, première perte en l'espace de 20 ans pour Aramis. On rappelle, site qui est spécialisé dans la vente de voitures. Sauf que le problème, c'est qu'avec la pénurie de semi-conducteurs et toutes les pénuries que connaît aujourd'hui les constructeurs automobiles, il n'y a plus de voitures neuves en déstockage. Et c'était le métier d'Aramis. Donc, il y a encore les voitures d'occasion, mais il n'y a plus les voitures neuves. Et donc, c'est tout un plan du business model de Aramis qui a été coupé ces dernières semaines.
En revanche, ça se passe beaucoup mieux pour Valneva.
Oui, Valneva, c'est une biotech franco-autrichienne dont on a beaucoup parlé ces derniers mois avec le vaccin anti-Covid qui est malheureusement arrivé un peu trop tard. Mais hier, ils ont annoncé des résultats positifs pour leur vaccin contre le chikungunya. Et si les autorités sanitaires américaines et européennes donnent leur go, ça sera tout simplement le premier laboratoire au monde à fournir un vaccin contre le chikungunya.
Étienne, vous restez avec nous parce que nous allons découvrir maintenant une société qui fait partie de cet indice. Et nous avons avec nous en visio ce soir Christelle de Rouvray. Bonsoir Christelle.
Bonsoir.
Vous êtes aux États-Unis, je crois, et vous êtes directrice générale de ESI Group, une société qui conçoit des logiciels de prototypage et de simulation 3D. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'activité de ESI Group, s'il vous plaît ?
Bien sûr. Et en effet, je vous appelle de Californie où il fait très beau aujourd'hui.
C'est pas gentil de vous dire ça.
ESI Group est un acteur des logiciels de simulation et du prototypage virtuel pour les industries. Nous sommes une entreprise qui a été fondée en France il y a près de 50 ans et on a plus de 1000 collaborateurs dans le monde entier. Donc, on aide les industries à répondre à leurs immenses enjeux de société, que ce soit l'impact environnemental, la sécurité, la productivité. Et j'écoutais avec attention votre invité précédent qui a touché sur tous les points. Parce qu'en effet, comme vous savez, les industries adoptent la digitalisation pour pouvoir se projeter sur ces grandes questions. Donc, c'est toujours plus facile de parler d'exemples. On a beaucoup parlé de Renault il y a quelques minutes et donc je vais continuer. Renault, aujourd'hui, quand ils sortent un nouveau modèle de voiture, ils n'ont aucune surprise par rapport à la performance de ce nouveau véhicule en matière de réglementation pour la sécurité, le crash test automobile. Et en effet, parce qu'ils font fonctionner depuis plusieurs années, voire des décennies avec nous, ils font fonctionner toute une machine virtuelle pour s'assurer la fiabilité de leur conception par rapport aux tests réglementaires de sécurité. Et récemment, il y a quelques années, ils ont sorti leur Clio 5, où ils ont obtenu 5 étoiles au test d'homologation. Et ça montre que, les bénéfices de la virtualisation, puisque en fait, on peut garantir ce genre de sécurité sur toute gamme de modèles de véhicules. Et les bénéfices de la virtualisation arrivent dans la poche des consommateurs qui peuvent maintenant s'acheter des voitures pas très chères et extrêmement sécurisées.
Oui, car le secteur automobile, c'est l'un de vos principaux clients. Hein. C'est plus de 60% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, en tout cas lors de la dernière publication. Juste un mot peut-être sur l'avancement de votre plan stratégique que vous avez dévoilé il y a un an. C'est un plan à horizon 2024-2025, objectif rentabilité de 20%. Comment ça se passe aujourd'hui, ce plan stratégique ? Comment aujourd'hui vous voyez l'avenir de ESI ?
Donc, on a lancé ce plan stratégique pour pouvoir vraiment extraire tout le potentiel d'une pépite technologique qui existe maintenant depuis 50 ans et qui a énormément d'atouts. D'abord, la fidélisation de ses clients et ensuite le talent mondial que nous avons qui fait qu'on peut se positionner par rapport à nos concurrents, par exemple, ou les autres acteurs du PLM et de la simulation. On peut vraiment aider nos clients à réduire leur empreinte environnementale, accroître leur sécurité ainsi que leur efficacité, puisque nous sommes un acteur plus spécialisé que nos concurrents et on travaille sur des cas d'usage très précis. Donc, nos logiciels aident nos clients à apporter la couche de crédibilité ou de certitude nécessaire pour se fier réellement au résultat de la simulation numérique. Donc, vous connaissez bien le contexte industriel dans lequel on opère, où la digitalisation est devenue un must pour des raisons que j'ai commencé à expliquer. Je peux donner d'autres exemples, mais je pense que ce qui est important ici, c'est donc nous, on veut vraiment faire partie de cette aventure de la décennie à venir par rapport à tous ces enjeux industriels. Donc, notre plan, il se passe très bien. Je ne sais pas si vous allez nous poser des questions, par exemple, sur le maintien de notre cours, sur le fait que notre Notre revenu récurrent n'a cessé de croître dans les dernières années, même pendant le Covid, ce qui est un témoignage du soutien que nous avons de la part de nos clients, des grandes marques dans les industries, et pas juste l'automobile, l'aéronautique, l'industrie lourde, l'énergie, et qui consomment de plus en plus de solutions avec nous. Et nous, nous sommes de plus en plus équipés dans l'organisation mondiale pour répondre à leurs demandes de plus en plus incessantes.
En tout cas, le marché vous fait confiance, hein, puisque depuis que vous êtes arrivé à la tête de l'entreprise en 2019, votre cours a pris 150%, François.
Merci beaucoup, Christelle. Et ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive cette discussion lors de votre prochain déplacement à Paris. Et vous viendrez nous voir sur le plateau de Tech & Co. Merci en tous les cas, Christelle de Rouvray, directrice générale de ESI Group. Et merci à Étienne Braque. Ce Tech & Co est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, mercredi, 20h, 22h, en direct à la radio, à la télé, le podcast et le replay qui vous attendent d'ores et déjà. Portez-vous bien et à demain.